l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
Kanani sililo Babeyilwele no baba bethe sandlwana Babeyilwele no gogo bethe sandlwana
Vous venez de découvrir les premières notes d'un album paru sur le label Blue Note Africa. Et oui, à l'initiative du producteur Don Oise, actuel président de Blue Note Records, une nouvelle entité de cette firme discographique légendaire a vu le jour en direction des artistes africains. Le premier musicien signé sur Blue Note Africa s'appelle Ndunduzo Makatini. Il est sud-africain, il a déjà fait paraître un merveilleux album en 2022 intitulé « In the Spirit of Two ». Le nouveau disque, Umon Kubulwane, a été présenté à Coutances en Normandie, dans le nord-ouest de la France, lors du 43e festival Jazz sous les pommiers. Nous nous sommes évidemment rendus sur place pour découvrir ce personnage d'une rare spiritualité. C'est un immense pianiste que nous avons le bonheur d'accueillir à présent sur nos ondes, Ndunduzo Makatini. Merci d'être avec nous.
Thank you so much, merci.
Dans quelques jours paraîtra votre deuxième album pour le label Blue Note Africa. Avant que nous ne parlions de ce projet, évoquons l'idée de Don Oise, le président de Blue Note Records, de créer une division africaine de ce prestigieux label. Comment vivez-vous le fait d'avoir été le premier artiste signé sur le label Blue Note Africa ?
Right, thank you. So Blue Note Africa really came as a response to the fact that I became
Blue Note Africa est né après avoir signé un contrat avec Blue Note America. J'étais le premier artiste sud-africain à enregistrer officiellement un album pour ce prestigieux label. En discutant avec le président de Blue Note, Don Oise, nous avons commencé à imaginer un département africain de ce label. Il se trouve que je suis issu d'une région d'Afrique australe où la musique a une valeur patrimoniale essentielle depuis les années 1930. Don Oise fut surpris d'apprendre qu'aucun autre musicien sud-africain n'avait signé sur le label Blue Note auparavant. Pour répondre à ce manquement manifeste, je lui ai proposé de créer une division africaine du label Blue Note et mettre en valeur les différentes cultures musicales jazz de notre continent. D'une certaine manière, nous voulions insister sur les liens transatlantiques qui existent réellement dans l'histoire du jazz. Nous voulions rappeler les origines de cette forme d'expression afro-planétaire.
Origin stories. Est-ce que le fait d'être un artiste, Blue Note Africa, vous donne plus de responsabilités pour promouvoir le jazz issu du continent africain ?
C'est en effet une grosse responsabilité. Quand on parle de jazz sur le continent africain, on parle de dialecte. Avant de commencer cette interview, nous parlions du pianiste congolais Ray Lema. Il est le parfait exemple de l'artiste aux multiples cultures, capable de retranscrire dans le jazz la diversité de son identité personnelle. Par conséquent, devenir le porte-parole de Blue Note Africa est une grosse responsabilité, car cela implique de me faire l'écho de toutes les couleurs du jazz en Afrique.
Est-ce que l'Afrique du Sud est une terre de jazz?
Right, truly is. Like I said earlier, we had this encounter with the music via the LPs in the 1930s.
Tout à fait. Comme je le disais il y a quelques instants, le jazz a fait irruption dans notre pays à travers les disques vinyles que mes aînés achetaient dans les années 30. C'est à partir de ce moment que notre jazz a commencé à se développer. Certains orchestres ont fait sensation en Afrique du Sud, comme les Jazz Ministers ou les Blue Notes. D'autres ont fait scintiller la culture jazz sud-africaine depuis leur terre d'exil. Je pense notamment à Yuma Sakela, Myriam Makeba et Abdoulaye Ibrahim. Ces seuls trois exemples vous montrent à quel point le jazz sud-africain a eu un impact réel sur l'ensemble de la planète. N'oublions pas non plus qu'aux États-Unis, le combat contre la ségrégation raciale épousait notre propre combat contre l'apartheid. Notre dénominateur commun était notre anticolonialisme et notre aspiration à retrouver une vraie liberté citoyenne. Nos engagements similaires pour l'égalité et la justice ont créé des ponts des deux côtés de l'Atlantique. Il suffit de penser au batteur Art Blakey, au trompettiste Miles Davis ou au pianiste Randy Weston qui ont évoqué le problème sud-africain dans leurs œuvres pour comprendre qu'il existait un lien historique entre nos deux pays.
Je sais que vous avez beaucoup d'admiration pour Abdoulaye Ibrahim et le regretté Bekim Selekou. Que vous ont-ils apporté?
You know, in terms of my own studies and the ways that I've been brought up.
Notre façon de réfléchir et de grandir en Afrique du Sud nous pousse à voir la musique en trois dimensions. Je m'explique. Il y a d'abord la socialisation, c'est-à-dire découvrir la musique à travers la vie et l'œuvre d'un artiste. Ensuite, il y a l'héritage. C'est la manière de transmettre de génération en génération une tradition musicale ou un patrimoine. C'est notre respect aux ancêtres. Et le dernier point, c'est l'initiation. C'est l'aspect le plus spirituel, puisqu'il fait appel à la guérison de l'âme à travers les notes. Les grands maîtres du jazz maîtrisent parfaitement ces trois dimensions de l'expressivité artistique. Bekim Selekou fut l'un de mes maîtres. J'ai passé beaucoup de temps à ses côtés. Je lui ai consacré certains de mes travaux universitaires en guise d'hommage, mais aussi pour expliquer combien sa musicalité était spécifique. Abdoulaye Ibrahim est aussi l'un de mes héros. Je l'écoute depuis que je suis tout gamin et j'ai eu le plaisir de pouvoir enfin le rencontrer en 2023 en Allemagne. Nous sommes restés en contact depuis et nous conversons ensemble régulièrement. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un grand article à son sujet qui abordera sa relation au temps et à la cosmologie.
Vous avez aussi joué avec le saxophoniste Zim Kawana. Quel souvenir garderez-vous de votre collaboration avec lui?
Zim Kawana était un musicien qui répondait aux deux premières dimensions du jazz que j'évoquais tout à l'heure. La socialisation et l'héritage. Il s'inspirait beaucoup d'un orchestre de Port-Elizabeth nommé les Soul Jazzmen. Ce groupe avait enregistré un album devenu un classique du patrimoine sud-africain, intitulé Inolupeko, que je conseille d'ailleurs à tous vos auditeurs. Cette formation sud-africaine a permis à de nombreux instrumentistes de se révéler dans notre pays. Zim Kawana s'intéressait également à la manière dont la musique pouvait guérir nos maux. Il était venu s'installer à Durban, où je vis actuellement, et avait même étudié le jazz grâce à un programme universitaire initié en 1983 par Darius Brubeck, le fils du célèbre pianiste Dave Brubeck. Zim eut tout de même quelques difficultés à s'intégrer dans le groupe d'étudiants, car l'enseignement qu'on lui prodiguait ne lui convenait pas. C'est la raison pour laquelle il a créé son propre univers musical, nommé Zimologie. C'était une manière d'insister sur l'esthétique musicale du monde noir et de démontrer que sans qualification, il était possible d'être un artiste de grande valeur. Il avait d'ailleurs créé un programme éducatif pour aider les jeunes talents à se révéler et à devenir des virtuoses, même s'ils n'avaient pas reçu l'enseignement académique exigé. Tout cela nous ramène à Abdullah Ibrahim, qui a été le chaperon de Zim Kwawana. Il existe donc une lignée perpétuelle de musiciens, car je suis moi-même l'élève de Zim Kwawana. C'est ainsi que la musique peut évoluer. J'ajoute que Zim était un être mystique. J'ai écrit un essai à son sujet dans lequel je dis combien sa musique avait une qualité spirituelle qui lui permettait d'atteindre la liberté. S'abandonner à la musique était pour lui une forme de libération qui le menait à l'improvisation totale. C'était sa manière d'atteindre la connaissance absolue en se laissant porter par la spontanéité d'une musique improvisée.
His idea of freedom. He spoke a lot about letting go, spontaneous response to musicality.
Nous sommes avec Ndunduzo Makatini ce week-end dans l'épopée. Parlons de Umon Kubulwane,
yes.
Votre nouvel album. En quoi est-il différent de Spirit of Two, votre précédent album?
Yeah, you know, the Spirit of Two speaks about a philopraxis.
The Spirit of Ntu évoque la philopraxie. En d'autres mots, c'est une manière de donner un sens pratique, de donner une valeur concrète aux notes de musique que l'on entend dans le patrimoine sonore sud-africain. Cependant, mon dernier disque s'inscrit à un tout autre niveau. Quand j'ai composé la chanson qui donne son titre à l'album, je m'interrogeais sur l'origine de notre existence. Je voulais revenir aux racines africaines avant que le christianisme n'interroge nos esprits. La chrétienté a souvent contredit nos croyances ancestrales. Je voulais, à travers cet album, répondre à cet état de fait en invoquant une déesse mythologique que l'on présenta comme la seule et unique fille du bon Dieu. Les catholiques pensent que le Seigneur n'a qu'un fils. Les Zoulous pensent qu'il s'agit d'une fille. Ces croyances traditionnelles sud-africaines nous disent que la fille du Seigneur est la déesse de la pluie, de l'abondance et du succès. Il m'est apparu étrange que nous percevions le continent africain comme une terre misérable, alors que nos croyances célèbrent une déesse qui crée l'abondance. Je me suis dit que le meilleur moyen de redonner sa grandeur au continent africain, c'était de mettre en avant ce qui le caractérise le mieux, c'est-à-dire les sons, les rythmes et les notes. Voilà notre richesse. D'une certaine manière, nous sommes le fruit d'une divinité, d'une énergie féminine qui nous a apporté force, courage et résilience.
Because Nomkubulwane regulates the rain and our stories and integrity.
Dans chacun de vos albums, j'entends la force de la spiritualité. La musique est-elle, à vos yeux, l'émanation de nos émotions, de nos joies et de nos tourments?
It truly is. There is a great author that writes on what he calls negritude.
L'un de vos grands auteurs, Aimé Césaire, parlait de négritude. Ce terme permettait d'évoquer le drame de l'esclavage, de la colonisation. C'était aussi une interrogation sur l'esthétique du monde noir. Son questionnement nous a ouvert les yeux sur notre propre identité et sur nos valeurs culturelles. Notre force, c'est le rythme. Le rythme dit qui nous sommes. C'est aussi ce qui définit l'univers autour de nous. Tout n'est que rythme. Le flux et le reflux des marées, c'est le rythme. Tout ce que nous vivons repose sur un rythme bien précis. La musique peut être vue comme l'addition de tous les rythmes que nous percevons. C'est le rythme du corps et de l'âme. J'en reviens à la dimension spirituelle de la musique. En Afrique du Sud, nous avons un terme précis pour définir ce rythme si particulier. Nous l'appelons ingoma. Ce terme spécifique renvoie aux divinités que nous célébrons à travers des chansons, des danses, des connaissances liturgiques. Tout cela pour vous dire que sur le continent africain, la spiritualité est indissociable du son et du rythme. Nos répertoires sont toujours interprétés durant des cérémonies, des rituels sacrés. La musique chez nous ne peut pas s'exprimer en dehors d'un contexte spirituel. Le jazz a en lui cette part de spiritualité que les Africains lui ont transmis en traversant l'Atlantique. C'était une manière pour eux de conserver la mémoire de leurs ancêtres. Les esclaves étaient très éloignés géographiquement de leur terre natale, mais parvenaient spirituellement à préserver leur appartenance identitaire africaine.
Spirituality is an inherent property of sound. So it was a way to connect with the spiritual construct of home when you are displaced from a geographic home, when you are displaced from an identity home.
Tunduso Makatini, vous parliez il y a quelques instants de jazz et de la manière dont les musiques africaines sont arrivées sur le continent américain. Quand John Coltrane interprétait Alabama ou All of Supreme, il exprimait ses sentiments profonds. Êtes-vous comme lui habité par une sensibilité qui vous dépasse?
Well, definitely. I definitely come from that school of John Coltrane, which is about seeking transcendence.
Je suis en effet d'une certaine manière un élève de John Coltrane. Comme lui, je cherche à transcender mon existence sur cette terre. Souvenez-vous des années 60. À cette époque, John Coltrane était en quête de liberté absolue à travers sa musique. On appelait ça le jazz avant-garde. C'était l'expression des difficultés rencontrées par les Afro-Américains face aux lois racistes d'alors que le mouvement des droits civiques tentait de faire disparaître. Son but était de dépasser les réalités du quotidien et de s'élever à travers la musique. J'essaie de faire exactement la même chose. J'essaie de vivre une forme d'utopie qui me détache de la réalité quotidienne. Le pianiste Sonra disait souvent que l'espace cosmique était son espace d'expression. C'était sa manière de transcender son statut d'être humain et d'en appeler à la spiritualité pour affronter la violence d'une époque. Il ne voulait pas se limiter à une vie terrestre, mais aspirer à une vie spirituelle. Bekim Selekou réfléchissait ainsi également. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait connaître les œuvres de John Coltrane. J'ai alors compris que face à l'adversité de notre quotidien, il faut prendre de la hauteur. Nous avons tous oublié que nous sommes des êtres liés par notre humanité. Nous avons donc une mémoire collective partagée. Notre humanité devrait donc apprendre à dépasser les problèmes de racisme, les discussions stériles sur la couleur de peau, les longs débats sur les différences culturelles, sur les différences de langage, etc. Attardons-nous plutôt sur nos émotions et notre ressenti. La musique réveille nos sens. C'est la raison pour laquelle je considère que la musique peut être un bienfait pour la paix dans le monde.
And sounds help us to revitalize this when we listen to music, there's something that awakens. And it's a sense that could make this world a better place.
Yeah. L'environnement dans lequel nous vivons a un impact sur notre développement personnel. Vous êtes né en 1982. Duduzo Makatini, bien avant la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Pensez-vous que cet environnement social a eu un impact sur votre musique?
You know, apartheid, more than anything, is a period of trauma, in a sense that you witness around yourself.
L'apartheid fut une période traumatisante pour tout le peuple sud-africain. Nous avons tous été les témoins d'injustices sociales majeures. Le régime d'apartheid essayait de vous convaincre que certains êtres humains étaient inférieurs à d'autres. C'est évidemment un non-sens. J'ai été confronté personnellement à cette inégalité existentielle dès mon plus jeune âge. Très tôt, on m'a fait comprendre que la couleur de ma peau me rendait inexistant dans la société sud-africaine d'alors. On me déniait tout simplement mon humanité. Je me souviens notamment de l'irruption de policiers dans mon école maternelle. Mes yeux d'enfant ont vu des forces de l'ordre abattre sans distinction des gamins sans défense. Nos instituteurs nous avaient appris à nous allonger par terre au cas où les autorités procédaient à une ratonnade. Les consignes étaient de rester allongés par terre 20 minutes après le dernier coup de feu. Nous ne pouvions nous relever que lorsque le maître ou la maîtresse nous l'autorisait. Et lorsque j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que nous n'étions plus que deux élèves debout. Tous les autres baignaient dans une mare de sang. Cet événement a évidemment laissé des traces dans mon esprit et il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver la paix intérieure. Mes parents m'ont beaucoup soutenu dans cette épreuve, mais ce n'était rien face à tous ceux qui ont perdu leurs propres enfants. Ce traumatisme sud-africain, je le ressens aujourd'hui lorsque j'entends parler du drame israélo-palestinien. L'Afrique du Sud n'est pas la superpuissance que l'on présente. C'est une nation qui saigne encore et qui comprend le drame que vivent d'autres populations. Nous ne défendons pas la Palestine ni Israël. Nous disons seulement que nous connaissons cette souffrance mortifère qui ne mène nulle part. Nous ne disons rien d'autre. Les cicatrices de l'apartheid sont toujours très douloureuses. Et lorsque nous assistons à des drames similaires, cela réveille notre indignation. Nous espérons seulement que notre histoire résiliente inspirera d'autres nations à travers le monde et fera évoluer les consciences.
You jump, it awakens. So, but we hope that our story would inspire the world and change the world somehow.
Est-ce que votre musique a conservé l'innocence de votre enfance?
Well, there's a lot of it, particularly when it comes to improvisation.
C'est le cas, principalement quand je me lance dans de longues improvisations. Mes aînés et professeurs m'ont répété que l'improvisation, c'est l'art de s'abandonner au moment présent. Dans ces instants de créativité spontanée, il y a une fragilité qui relève de l'innocence enfantine. Un enfant se laisse porter par ses envies sans réfléchir aux conséquences. Dans mon répertoire, je fais souvent référence à l'enfant qui est en moi. Je m'interroge, comment préserver l'innocence de l'enfance? Dans notre monde, la candeur d'un enfant est trop souvent parasitée par le réel, les choix politiques de nos dirigeants, le racisme, l'apartheid. Chérissons la naïveté de nos enfants qui sont capables de pardonner sans condition. Ils n'ont pas encore l'esprit de vengeance en eux. Le pardon est une valeur humaine qui se perd de nos jours. Être un improvisateur requiert une qualité première, savoir se pardonner à soi-même les erreurs que l'on commet. Quand on fait une fausse note, il faut savoir rapidement l'oublier pour continuer à jouer. C'est ce que j'appelle le pardon. L'enfant qui est en moi me permet de continuer à jouer sans réfléchir aux conséquences de mon erreur d'interprétation. Je reste ainsi naïf et serein. Ce moi intérieur est un sentiment sacré.
C'est très important parce que c'est aussi la partie sacrée.
Semkathini siyathokoza Zindlondlo nina imphezwa kwakho konke siyakhuleka kuye umveli qala maqhawe namaqhawekazi sithi makube inala makhosi amakhulu.
Dans ce monde chaotique, Ndudzo Makatini, votre nouvel album est-il une solution à tous nos maux?
Precisely. You know, when we think about healing,
précisément,
healing
la guérison, c'est pouvoir revenir à un état naturel d'existence. C'est extraire tous les corps étrangers qui polluent notre corps et notre esprit. Dans la médecine occidentale, soigner un corps malade passe par l'injection d'un vaccin qui permettra à l'organisme de reconnaître un virus et de le maîtriser. Dans nos traditions ancestrales africaines, la réflexion est tout autre. Le but est de faire sortir le virus de l'organisme. De notre point de vue, le corps ne doit pas coexister avec un virus endormi par un vaccin. Il doit s'en séparer. Dans les croyances africaines, on parle souvent de possession maléfique de l'esprit. Pour s'affranchir de cette domination, il faut s'abandonner et laisser la méditation l'emporter. Je ne dis pas que j'ai raison et que d'autres ont tort. Je dis seulement que ma musique est justement une invitation à laisser votre esprit vagabonder. Ce n'est évidemment pas le remède miracle à une maladie sérieuse, mais c'est une main tendue vers le bien-être. C'est ce que je veux proposer à travers ma musique.
But it allows you an opportunity to let go, to find your own inner healing. That's the thing that happens with my music.
C'est une très belle conclusion.
So thank you for that, brother. I appreciate it.
Merci beaucoup, Ndudzo Makatini.
Merci, merci.
Siya bonga.
Oh, siya bonga cool, bafo.
Enregistré à Coutances en Normandie le 10 mai 2024 lors du 43e festival Jazz sous les pommiers, c'était Ndudzo Makatini en concert devant les micros de Bertrand Éclair, que je remercie chaleureusement pour son écoute attentive et ses prises de son soignées. Je congratule également Nathalie Laporte, sans qui cette émission n'existerait pas. Et je salue bien entendu les équipes de Coutances qui nous ont une fois de plus facilité la tâche. La semaine prochaine, nous vous proposerons un écho du festival Jazz à Vienne qui vient de débuter près de Lyon, en France. D'ici le 12 juillet, les spectateurs auront pu applaudir Oumou Sangaré, Chucho Valdés, Rhoda Scott, Liz Wright, Robert Finlay, etc., etc. Ce week-end démarre également le Marseille Jazz des 5 continents. Un peu plus tard, le 63e festival Jazz à Jouan qui verra défiler Manu Katché, Youssou N'Dour, Tiken Jaffa Coli, Joshua Redman, Marcus Miller pour ne citer que. Et n'oubliez pas le Montreux Jazz Festival en Suisse, du 5 au 20 juillet, avec Trombone Shorty, Dionne Warwick, Coco Rocco, Jalen Gonda, Lenny Kravitz, Michael Kiwanuka, Christian Kingfish Ingram, entre autres. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.